BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission. Nous recevons cette semaine l'association Les Enfants de Tamar, présentée par Claire Aurélie Verraquin. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien, ça va bien. L'association avance, donc on est content.
Alors on s'est déjà eu à plusieurs reprises, on s'est vu à plusieurs reprises pour parler des Enfants de Tamar. On va quand même rappeler qui êtes-vous pour nos auditeurs tout d'abord ?
Donc, je suis Claire Aurélie Verraquin, présidente de l'association Les Enfants de Tamar.
Cette volonté, du coup, de vous impliquer dans cette association, d'où est-ce qu'elle vous est venue ?
De mon histoire personnelle. Il y a 5 ans, à l'issue d'un long chemin thérapeutique, j'ai publié un témoignage et à l'issue de ce témoignage, j'ai fait quelques séances de dédicaces et puis après, il y a eu plusieurs événements qui nous ont permis de se dire que une association d'aide aux victimes et des sensibilisations sur les violences sexuelles serait intéressant d'avoir dans notre département, puisqu'à l'origine, il n'y avait rien qui traitait en particulier des violences sexuelles commises sur les mineurs.
Mais du coup, rentrons dans le vif du sujet. On est là pour parler donc de votre association Les Enfants de Tamar. Nos auditeurs ont déjà pu vous entendre plusieurs reprises sur nos antennes, mais quand même, on va en rappeler Les Enfants de Tamar, qu'est-ce que c'est ? Quel est le but de cette association ?
Donc, notre but est de lutter contre les violences sexuelles commises sur les mineurs par tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Alors, il y a plusieurs volets. Les actions de sensibilisation, d'information, des formations et l'accompagnement. Voilà, donc après, ça peut se décliner en plusieurs activités. Mais voilà, notre but, c'est d'essayer d'aller parler partout et sans tabou des violences sexuelles et notamment de mettre l'accent sur les conséquences dramatiques sur une vie pour une personne victime et donc l'importance de pouvoir parler le plus tôt possible pour pouvoir être accompagné psychologiquement et puis essayer de d'évacuer le trauma dû à cette expérience douloureuse et dévastatrice.
C'est d'où noter l'importance de discuter, enfin de parler très vite des problèmes, des choses qu'on a pu vivre avant que ça nous gangrène de l'intérieur.
Tout à fait. En fait, hein, il faut savoir que les violences sexuelles sur les mineurs, c'est 165 000 enfants, c'est 3 enfants par classe. C'est donc 3 enfants par classe qui passent souvent inaperçus, mais qui vont avoir des comportements multiples qui vont se détruire. Et les statistiques montrent que la moitié des personnes victimes de violences sexuelles vont tenter de mettre fin à leur jour au cours de leur vie. Donc il y a vraiment un enjeu sociétal de lutter et surtout de prévenir, voilà, d'informer, de prévenir pour permettre à ces personnes de pouvoir libérer la parole.
Il y a un mot important que vous avez dit, c'est ce mot prévenir, puisque quand on connaît pas vraiment, on va dire, ce fléau, on ne peut pas se rendre compte à quel point ça peut être aussi régulier, récurrent, et que ça touche autant de personnes dans le pays, dans le monde entier même.
Oui, vous avez pu entendre avec le rapport de la FIAZ l'impact. Le nombre important de victimes au sein de l'Église, c'est 330 000 enfants sur 70 ans. En fait, ça représente 4-5% des victimes, en fait, puisque les chiffres sont qu'environ 60% des violences sexuelles sont commises sur des mineurs et que dans 95% à peu près, c'est des enfants au sein de leur famille, donc des violences incestueuses qui sont commises sur les enfants. Donc en fait, si aujourd'hui, même si on est dans un déni sociétal, même si on en parle un peu plus, c'est difficile de pouvoir ouvrir les yeux parce qu'en fait, c'est insoutenable d'imaginer qu'un membre de sa famille puisse être auteur. Et donc, du coup, on se focalise sur l'extérieur, sur les violences sexuelles dans le sport, les violences sexuelles dans l'église, les violences sexuelles dans l'école, dans les centres aérés, etc. Et c'est important. Et c'est important de mettre plein de choses en place pour que ces auteurs-là ne puissent pas agresser les enfants. Mais en fait, c'est pour se détourner de l'insoutenable qui est les violences faites sur les enfants au sein de leur famille.
On avait vu, je ne sais plus si c'est début 2020 ou début 2021, mais ce hashtag notamment #MeTooInceste qui avait fait beaucoup parler de lui et qui avait été très, très insoutenable, comme vous l'avez dit, à lire les nombreux témoignages.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, #MeTooInceste, c'était janvier 2021 avec le livre de Camille Kouchner qui est sorti et qui a permis une grande libéralisation sur les réseaux sociaux. Qu'on espère se concrétiser dans le travail de la Civise, qui est actuellement en train de faire un grand appel aux témoignages pour les victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, la semaine dernière, on était à 5000 témoignages d'inceste en un mois. On espère que ça va continuer pour permettre de vraiment à la Civise de faire un travail approfondi et que surtout notre société ouvre les yeux sur l'ampleur du désastre pour qu'on puisse rebondir et mettre en place de nombreuses actions, à la fois dans la prévention, à la fois dans la prise en charge de la victime tout au long de sa vie. Et aussi dans le cadre de réparation, etc. Donc, voilà.
Il faut qu'il y ait aussi une véritable prise de conscience, on va dire, d'un peu tout le monde. Chose qui, j'ai l'impression, ça arrive de plus en plus, notamment avec ce hashtag #MeTooInceste.
Alors, je sais pas si ça arrive, si les violences sexuelles arrivent plus. C'est ça votre question, savoir si c'est plus, s'il y a plus de violence ou si. Je pense qu'il n'y a pas plus de violence. Je pense qu'on a pris conscience de ce qu'étaient les violences sexuelles. Hein, parce que quand on regarde, par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé, mais j'invite les auditeurs et vous à aller voir le petit reportage de Carl Zéro, Un enfant sur cinq, qui met justement en évidence la pédocriminalité et qui retrace dans les années 60, dans les années 70, il y avait des choses qui se disaient à la télé qui, aujourd'hui, c'est pas possible, en fait. Et donc, du coup, il y a une prise de conscience. Maintenant, en fait, la prise de conscience, c'est bien. Moi, ce que j'ai pu constater quand même avec ce qui s'est passé avec #MeTooInceste l'année dernière, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, mais elle est retombée très rapidement. Alors, c'est vrai que le gouvernement a lancé cette commission inceste qui est aujourd'hui... la Civise pour faire un travail, mais en fait, aujourd'hui, le travail, c'est bien, mais on voudrait en fait des faits, on voudrait vraiment des choses qui bougent, des choses qui changent, parce qu'en fait, c'est la vie d'enfants, et en fait, quand on attend 6 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans pour avoir un rapport, 2 ans pour mettre des lois, etc., etc., ben, en 4 ans de temps, ben, c'est 165 000 fois 4 enfants de plus, ou en tout cas qui sont victimes, pour lesquelles ils ne sont pas protégés, quoi. Donc, c'est bien, on voudrait des faits concrets pour qu'on puisse vraiment dire qu'il y a une vraie prise de conscience, au moins au niveau de nos politiques, et que derrière, c'est bien les lois, mais en fait, qu'on les fasse appliquer. Vous voyez, par exemple, là, j'ai recontacté une maman qui est venue me voir il y a peut-être 1 an. Ça faisait déjà 2 ans et demi que la petite attendait le procès, dont c'est son père qui est agresseur. Il a avoué. Aujourd'hui, le jugement n'est toujours pas rendu. Ça faisait déjà 2 ans et demi, donc on est à 3 ans et demi, 4 ans de procédure. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Pour un fait avéré, enfin, pour un fait en tout cas qui a été reconnu par l'auteur. Donc, vous imaginez quand c'est pas reconnu. Là, ce matin, j'entendais un témoignage, pareil, d'une jeune femme via l'association Amnésie Traumatique. Ça fait 9 ans et l'affaire est toujours en cours. Hein, comment on peut se reconstruire avec une justice qui va aussi lentement? Donc il y a vraiment des choses à changer en profondeur et en réactivité pour que les victimes puissent aussi avancer. Parce qu'en fait, quand on a une procédure judiciaire, eh bien, on fait souvent le travail thérapeutique en parallèle. Mais en fait, le travail judiciaire, il doit se faire aussi en parallèle. Et il doit aussi avancer. Parce qu'en fait, sinon, ça ne permet pas à la victime, à l'enfant victime, de vraiment finaliser de se reconstruire. Parce que quand va arriver le procès, eh bien, il va replonger dans toutes les souffrances.
Cette lenteur au niveau de la justice, notamment, on peut la traduire un petit peu aussi par une sorte de méconnaissance au niveau de ce sujet où on n'est pas forcément toujours bien éduqué par rapport à ça?
Oui, alors je pense qu'il y a un peu de tout. C'est vrai que la formation... Alors moi, je pense que la justice est une chose, mais c'est surtout les enquêtes, en fait. Et les gendarmes et les policiers qui font les enquêtes... il y a tout un travail de méticuleux. En général, il faut compter 12 à 18 mois pour une enquête. Donc, c'est énorme. Et en plus, la victime est rarement au courant de l'avancée. Donc déjà, vous voyez, vous avez un enfant de 10 ans, 12 ans, il va falloir qu'il attende un an et demi, 2 ans pour que ça arrive sur la liste longue d'attente pour passer au tribunal. Et puis après, la formation, c'est sûr, c'est indéniable. Puis peut-être ensuite le personnel, je sais pas, hein, j'ai pas creusé la question. Mais en tout cas, c'est insoutenable pour des victimes d'attendre aussi longtemps pour pouvoir entendre un verdict, quel qu'il soit.
Et pouvoir commencer sa reconstruction, quoi.
Et pouvoir, en tout cas, tourner la page. Une nouvelle page, écrire une nouvelle page, parce que tourner la page, c'est ils le font au fur et à mesure, mais en fait cette page, c'est un grand livre en fait, hein. Lorsqu'on a été une personne victime de violences sexuelles, on écrit un livre d'une vie, et au fur et à mesure de notre vie, on découvre éventuellement des traumas qui sont la résultante des violences, et on essaye d'y pallier au fur et à mesure. Mais plus tôt l'enfant sera pris en charge, moins cet impact au fur et à mesure de la vie sera important.
Alors, sans forcément rentrer dans les détails, j'imagine, vous disiez par rapport à ces traumas qu'il doit y avoir, j'imagine, certains blocages, notamment quand on commence à être avec un conjoint, etc.
Oui, tout à fait. L'intimité est une grande question, c'est très compliqué. Et au début, elle peut paraître invisible parce qu'en fait, il peut y avoir des comportements dans l'intimité ou dans le cadre où on s'oblige. Pour essayer d'être dans la normalité, pour essayer de se dire que, voilà. Donc, la construction du couple est compliquée, mais même déjà le choix du conjoint est induit par des fois la violence que l'on a vécue. La maternité est encore une grande étape. Donc, toute cette construction de la famille, du couple, est une difficulté dont la victime va essayer de contourner avec les moyens qu'elle a et l'entourage qu'elle a.
Au niveau de... Alors revenons sur l'association et les différentes actions qu'il y a pu avoir avec cette vie qui repart. On vous a vu notamment fin septembre avec un colloque à Saint-Marcel. Revenons dessus, qu'est-ce qui s'était passé? C'était le 30 septembre si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. Donc le 30 septembre, on a lancé notre premier colloque l'enfant victime de violences sexuelles. Étaient invités Patrice Huère, psychiatre, et Gérard Lopez, victimologue, psychiatre victimologue, qui malheureusement pour des raisons de santé n'a pas pu nous rejoindre. Mais du coup, nous avons eu le docteur Ben Siemoun, qui est aussi pédopsychiatre et spécialiste du recueil de la parole. Donc ce colloque nous a permis de voir l'intérêt sur le sujet des professionnels, parce que principalement c'était ouvert à tous, hein, c'était gratuit et ouvert à tous, mais nous avons eu beaucoup de professionnels qui se sont inscrits, je crois qu'on avait plus de 210 inscrits. Finalement 173 personnes ont pu se rendre sur la journée au colloque, mais en tout cas ça nous a montré vraiment qu'il y avait un manque de formation et une demande de formation. Donc ça nous a conforté dans nos projets à venir au niveau de l'action de formation. Et c'est vrai que ça nous a permis vraiment d'échanger. Et alors, bon, le public était plutôt féminin, mais on avait quand même quelques hommes. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait quand même de nombreux professionnels divers. Bon, on a eu des forces de l'ordre, on a eu des CUN, on a eu des éducateurs spécialisés, on a eu deux avocats, une médecin, beaucoup d'infirmières, voilà, donc quelques professionnels. Bon, ce qu'on regrette, c'est voilà, de ne pas avoir pu toucher plus de personnel de la justice et plus de médecins généralistes. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui les dépasse? Est-ce que c'est un sujet qui les dérange? Ou est-ce que, tout simplement, en tant que professionnel libéral, ils n'ont pas souhaité se libérer ou n'ont pas pu se libérer? Mais voilà, c'est la question à creuser. En tout cas, pour nous, c'est important aussi de pouvoir travailler avec, avec ces professionnels qu'on ira rencontrer peut-être d'une manière différente.
Et si je m'abuse, à ce colloque, il y avait des discours d'agressés et d'agresseurs, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, le matin, nous avons parlé des enfants agresseurs, des enfants et adolescents agresseurs. Et l'après-midi, on a fait la partie des enfants victimes. Et donc, du coup, l'importance de du recueil de la parole. Voilà. Donc, en fait, le docteur Huer a traité la partie agresseur en permettant de voir aussi la psychologie, mais aussi l'importance de pouvoir accompagner ces enfants agresseurs. Et l'après-midi, on a traité de l'importance du recueil de la parole et surtout de ne pas faire attention à ne pas polluer les communications. Enfin, on n'a pas les communications, mais les propos en fait des enfants. Plus on fait répéter l'enfant, plus il risque de rajouter des choses, plus il risque de pas s'inventer, mais en tout cas recontextualiser différemment, etc. Et donc ça, c'est important. En fait, dès lors qu'un enfant révèle des faits, l'idéal, c'est de ne pas lui faire répéter de nombreuses fois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'heure, nous avons la chance d'avoir une cellule, alors qui s'appelle plus Mélanie, mais enfin c'est une cellule d'audition spécifique pour les auditions de mineurs qui a lieu à l'hôpital d'Évreux. Et donc c'est un espace qui est filmé et observé par une psychologue durant toute l'audition faite par les gendarmes ou la police. Donc ça, on a cette chance-là parce que ça n'existe pas dans tous les départements.
Au niveau de l'actualité de l'association, vous lancez un groupe de parole pour les victimes de violences sexuelles ici à Vernon.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que le 13 novembre, donc on a un premier groupe de parole pour les victimes, qui donc est déjà un groupe fermé, hein, puisqu'en fait nos groupes sont sur inscription et ne peuvent pas dépasser les 8 personnes. Donc on a lancé notre premier groupe. Qui a lieu donc un samedi par mois de 9h30 à 11h30 au Cookie Cat Café, donc notre partenaire pour ces groupes de parole. Et donc du coup, on trouvait important de pouvoir informer les gens, puisqu'en fait on a aussi la possibilité d'ouvrir un nouveau groupe, soit sur Vernon, soit sur Rouen pour les victimes. Et il y a un groupe en construction qui va bientôt, voilà, il reste encore quelques places pour les parents. Donc ce que nous on appelle le groupe des aidants, puisqu'en fait ça peut être aussi des professionnels qui sont amenés à aider des personnes victimes, des amis, des frères, des sœurs qui accompagnent une victime ou des parents en fait. Donc là il reste 4-5 places pour ce groupe-là, pour qu'ils se lancent. Et donc du coup on est très content et en plus le clin d'œil c'est que le jour du lancement de ce groupe de parole qui a lieu le 13 novembre, nous fêterons nos 3 ans d'existence. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil sympathique pour montrer que en 3 ans de temps où on en est arrivé avec tous les membres de l'association.
Et autre événement, la semaine d'après, le 20 novembre, c'est un ciné-débat au cinéma à Vernon, ici.
Oui, tout à fait. Donc, un ciné-débat autour du film Slalom, Donc, c'est un film de Charlène Favier, donc, qui, à l'origine, devait nous rejoindre, mais ne peut pas, pour des raisons de maternité. Donc, on va lui laisser tranquillement, voilà, mais en tout cas, elle nous soutient. Et c'est un très beau film qui va parler de donc des violences sexuelles dans le monde du sport, mais c'est surtout axé sur le sur l'emprise, voilà, tous les mécanismes, tout le mécanisme d'emprise subtil d'un agresseur sur une jeune, là en l'occurrence dans le sport. Et nous avons choisi la semaine du 20 en fait parce que le 18 novembre c'est la journée européenne. Excusez-moi, du coup, je voulais vous redonner exactement l'intitulé. Donc, en fait, c'est la journée européenne de la protection contre l'exploitation et les agressions sexuelles. Donc, en fait, on a choisi de faire un événement pour mettre l'accent sur cette protection des enfants contre l'exploitation et les agressions sexuelles. Et on a convenu avec, avec le cinéma que le film Slalom, n'ayant pas été du tout à l'affiche dans le département de l'Eure, donc ça veut dire que voilà, c'est l'unique fois qu'on pourra regarder ce film, il avait toute sa place sur une programmation un samedi soir à 20h30. Et en plus, du coup, en choisissant le 20, nous sommes aussi sur la journée du droit de l'enfant. Donc vous voyez, en une action, nous mobilisons à la fois pour le droit de l'enfant et en particulier pour la lutte contre les agressions sexuelles faites sur les enfants. Pardon. Et du coup, le cinéma, pour nous montrer son soutien, propose la place à 6 euros, ce qui est un tarif très intéressant, et 1 euro sera reversé à l'association, voilà, en don. Donc c'est son moyen à la fois déjà de proposer ce film et surtout de pouvoir nous soutenir dans notre démarche de lutte contre les violences sexuelles.
Eh bien merci beaucoup Claire-Aurélie Verraquin.
Merci à vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez les moindres questions et des moindres besoins d'informations. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux et sur notre site internet où vous trouverez toutes nos coordonnées. À très bientôt.
Vous trouverez tout sur le site internet des Enfants de Tamar. Merci de nous avoir parlé de l'association Les Enfants de Tamar. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon 99.3.